amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fracture. Fracture est une émission accueillie par Pulsar 95.9 tous les vendredis. Fracture, une émission qui vous parle d'agitation sociale, d'actualité politique, de récits, de lutte. Aujourd'hui, à la technique, c'est Andrea. Et autour de la table, c'est Cathy et Katrina.
Bonjour.
Et moi-même, Alex. Il y a 10 ans, une nouvelle prison voyait le jour à Vivonne. Nous avons déjà fait une émission sur ce sujet, où nous vous avons fait le récit d'actes de résistance face à l'arbitraire de l'univers carcéral, à la prison Poitiers-Vivonne. C'était le vendredi 11 octobre, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Pulsar, sur la page de Fracture. Aujourd'hui, nous allons davantage nous intéresser au fonctionnement des prisons, toujours en s'appuyant sur la prison Poitiers-Vivonne, présentée comme une avancée à l'époque. Alors, une avancée pour qui ? À qui en réalité profitent ces nouvelles prisons ? Nous verrons ça tout à l'heure. Pour commencer, voici quelques brèves d'actualité.
Bizarre, c'est bon.
Je suis plus capable de penser à rien.
Point d'exclamation.
Ah ouais ?
Balance ton port. Depuis début octobre, une tour en bois de palette dans le pur style zadiste surplombe la plage de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. Et c'est la panique chez les idylles. A commencer par le maire de cette commune vendéenne qui s'est, constate un observateur, tiré une balle dans le pied en envoyant ses bulldozers saccager la dune d'un site classé. Tout ça pour engager des travaux de son projet de port de plaisance. C'est que 17 années d'opposition légale n'avaient pas réussi, la ZAD de la dune l'a obtenue en quelques jours. Emballement médiatique, large soutien de la population, bulldozer arrêté. Favorisé par cet effet ZAD, l'opposition historique à ce projet aberrant, principalement rassemblée dans l'association La Vigie, a gagné une visibilité nationale qui lui faisait défaut et un soutien croissant à son combat. Pourtant, le maire et ses compères de la communauté de communes qu'il préside pouvaient quelques jours plus tôt se sentir triomphants. Après les avis défavorables de la commission d'enquête publique et ceux de plusieurs préfets successifs, le nouveau préfet avait décidé de trouver ce projet d'intérêt public et d'autoriser les travaux. L'objectif d'éventrer la côte, de détruire une dune classée, une zone verte naturelle agricole, pour creuser 40 hectares d'un port de 900 anneaux, ce rêve pharaonique allait pouvoir se réaliser. Les partisans de ce port se comptent surtout parmi les estivants domiciliés sur la commune, mais n'y venant que quelques semaines par an pour sortir en mer en moyenne 3 jours. Mais c'était sans compter une poignée de jeunes du coin, fortement soutenus par de nombreux habitants et vieux paysans, qui se proclament gardiens de la dune et s'installent sur un terrain. Ils ajoutent leur stratégie désobéissante à celle plus classique des opposants historiques, lancée dans de nombreux recours administratifs. La machinerie du saccage est donc pour le moment enrayée, le projet de port de Bretignolles a désormais du plomb dans les voiles. Réforme assurance chômage. On en a parlé, la réforme de l'assurance chômage qui commence à s'appliquer ce mois-ci va être violente et ça bouillonne déjà. Quelques rassemblements par-ci par-là, à Poitiers c'était hier matin devant le pôle emploi de la gare, distribution de tracts accompagné d'un petit déjeuner, ça discute et ça s'organise. Éducation. Mercredi 6, les enseignants et enseignantes du primaire se sont donné rendez-vous devant le rectorat après le suicide de leur collègue Christine Renon. Ils ont demandé la tenue d'un CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail extraordinaire, afin d'alerter la rectrice et le ministère sur leurs conditions de travail. Un courrier signé par plusieurs organisations syndicales avait été envoyé quelques jours plus tôt après ce drame, courrier resté sans réponse. Enfin, Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se sont réunis à Montpellier pour une assemblée des assemblées. Ils appellent à se lier aux travailleurs et chômeurs pour préparer ensemble la manifestation du 5 décembre et la suite. Parce qu'il faut lutter contre la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, contre le délaissement des services publics. La liste est longue, alors unissons-nous et allons au-delà des appels plan-plan des traditionnelles journées de mobilisation.
My thoughts have come too hot. The way my eyes see you, craving to be true. But from where I'm stood, all is jolly, jolly good. Take a piece of my head, please stop seeing red. Every time I let go, you should only know jolly, jolly good. All is jolly, jolly good. All is jolly, jolly good now.
C'était The Mobs, Jolly Good. Vous êtes bien à l'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Aujourd'hui, avec Cathy et Katrina, nous allons parler prison et profit. L'enfermement rapporte, mais quel est le business model des prisons? Il y a 10 ans, on construisait une nouvelle prison, la prison de Poitiers-Vivonne, dans le cadre du programme 13000. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme?
Oui, bonjour. Oui, alors effectivement, à la fin des années 80, il y a le programme 13000, donc 13000 pour 13000 places supplémentaires en prison, ou encore appelé plan Chalon-Don, du nom du garde des Sceaux de l'époque, qui voit le jour. 21 sur 25 de ces nouveaux établissements qui sont créés ont la particularité que leur construction et leur gestion sont confiées à des entreprises privées. On y reviendra tout à l'heure. Les raisons en fait, à avancer à ce programme, c'est la nécessité de pallier à la surpopulation carcérale, la vétusté et l'insalubrité des prisons. Mais en fait, malgré la mise en service de ces nouveaux modèles d'établissements et de places supplémentaires, on voit que les pouvoirs publics successifs n'ont de cesse de renouveler toujours cet appel à toujours plus de prisons, avec en fait toujours les mêmes arguments. Si bien qu'en fait, 14 ans plus tard, en 2002, c'est cette fois le programme 13200 qui voit le jour, avec l'objectif de faire 30 prisons supplémentaires, et les arguments politiques, eux, n'ont pas bougé. Il est suivi de l'annonce d'un dispositif d'accroissement de capacité 3000 places dès 2004, rebelote en 2012 avec 6500 places annoncées, puis 7000 en 2018, et là on arrive à 15000 places finalement annoncées à l'horizon 2027.
Donc en fait, ces programmes successifs n'ont pas changé la donne des conditions de détention et répondu au problème de surpopulation.
Non, absolument pas. En fait, sur toute cette période, la surpopulation carcérale, elle n'a pas cessé de croître parce que le nombre de détenus a augmenté lui aussi quasiment au même rythme que l'augmentation des places. Et ce n'est absolument pas l'augmentation de la délinquance qui est en cause, c'est bien la politique pénale et qui réclame toujours du tout carcéral. On voit que la détention provisoire est davantage prononcée, les peines d'emprisonnement aussi, quitte à enfermer pour un mois seulement, donc juste le temps de perdre son boulot et son logement. Et puis les comparutions immédiates se généralisent. C'est un système pour rendre la justice plus rapidement, mais où la défense est moins préparée, car on laisse moins de temps aux personnes accusées, et où les peines du coup sont prononcées sont plus lourdes. Du coup, en juillet 2018, la France a atteint un taux de détention inégalé depuis le 19e siècle, et c'est devenu la norme depuis. On compte 70 059 prisonniers et prisonnières au 1er janvier 2019 dans les prisons françaises.
Oui, et puis si on regarde en fait d'un autre côté les moyens en fait alloués à la réinsertion, qui est un objectif toujours chanté par les pouvoirs publics, en fait on constate que les aménagements de peine comme la libération conditionnelle, qui permettent un retour progressif et accompagner des personnes détenues à la vie extérieure, en fait sont largement sous-utilisés. Si on prend l'exemple de Poitiers-Vivonne, on se rend compte que là au 1er janvier 2019, pardon. En maison d'arrêt pour hommes, il y a une densité carcérale de 132%, donc on est en surpopulation. Mais par contre, dans le quartier de semi-liberté pour hommes, là, en fait, il y a 30 places. Au 1er janvier, il n'y a que 11 personnes qui y sont, donc on est à une densité carcérale de 36%. Donc voilà, c'est vraiment sous-utilisé. Et sinon, pour revenir à cette non-réinsertion, on peut noter que l'OIP, l'Observatoire international des prisons, dit que c'est 80% des prisonniers qui sortent sans accompagnement. On appelle ça sortie sèche. Et 14% de ces prisonniers qui se retrouvent même sans solution d'hébergement. Si Cathy, tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, on sait que les sortants de prison sont confrontés à une série d'obstacles, une série de difficultés, quand les liens familiaux n'ont pu être maintenus notamment. On peut énumérer la question du logement, la question de l'hébergement aussi. Souvent, l'incarcération donne suite à la perte du logement parce qu'il n'y a plus de moyens pour régler la location. Perte du salaire, mais aussi coupe des prestations sociales. Le RSA, il est coupé après quelques mois de détention. Pour trouver un logement en préparation à la sortie, c'est d'autant plus compliqué que la seule correspondance va se faire par courrier. Les visites de logement ne sont bien sûr pas possibles. Et la plupart des bailleurs préfèrent attendre que la sortie soit effective avant de se placer, de se prononcer. Sur l'hébergement, eh bien, s'il n'y a pas d'appui du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, certes, les demandes d'hébergement elles peuvent être adressées par courrier aux structures d'hébergement, mais il y a rarement de réponse, faute de place disponible. On sait que les systèmes sont saturés, également sur l'hébergement d'urgence dans un département comme la Vienne. Et c'est aux détenus donc, de demander ensuite une permission de sortie s'il a obtenu un rendez-vous avec la structure d'hébergement. Permission de sortie qui sera accordée ou refusée par le JAP, le juge d'application des peines, pour ensuite devoir se rendre à ses frais et par ses propres moyens rencontrer cette structure d'hébergement qui décidera ou non de l'inclusion au moment de la sortie. Et par exemple, on peut voir des personnes qui sortent de Poitiers-Vivonne et qui doivent aller rencontrer un service à Châtellerault ou à Sainte sur une journée de permission. La question des ressources aussi. Les droits sociaux, on l'a dit, ne seront pas ouverts avant la sortie définitive. Donc il faut se déplacer à la CAF, il faut demander un rendez-vous qu'on obtiendra plusieurs jours ensuite. Il y a le délai de traitement du dossier. Donc quelques semaines au mieux par la suite, on obtiendra l'ouverture de son minima social, par exemple du RSA, à condition encore d'en remplir les conditions et à condition que les pièces administratives nécessaires n'aient pas été perdues ou détériorées pendant l'incarcération. Je pense à la carte d'identité, par exemple. Sur le droit au séjour pour des personnes qui n'auraient pas la nationalité, c'est encore plus de difficultés. On sait que la préfecture de la Vienne refuse de recevoir des demandes de rendez-vous et des demandes de titre de séjour par courrier, ce qui veut dire que la sortie de prison peut s'accompagner d'une impossibilité à avoir renouvelé son titre de séjour, du coup d'une situation irrégulière, on est sans papier, on n'a pas accès ni à des ressources, ni à un hébergement autre que le 115, lui-même saturé.
Ok. Et alors, Katrina, qu'est-ce qu'il en est de la surveillance et du contrôle ?
Oui, alors là-dessus, donc évidemment, les nouvelles prisons, c'est aussi le développement de technologies, notamment qui vont venir remplacer tous les contacts humains du quotidien. Alors, par exemple, ces caméras de vidéosurveillance, commandes électriques pour l'ouverture des portes, hygiaphone à l'intérieur des cellules pour faire appel aux surveillants. En fait, on comprend très vite que derrière ce modernisme se trouve en fait ce que certains peuvent appeler une déshumanisation croissante, donc déshumanisation que les prisons n'avaient évidemment pas besoin d'amplifier, on s'en doute bien. Donc architecture définie au nom de préoccupations sécuritaires, communication entre détenus réduite au maximum, limitation des déplacements des agents comme des détenus, multiplication des sas, des grilles, etc. Dans le concret, faut bien comprendre que donc, ces considérations sécuritaires, par exemple, complexifient les déplacements au sein des prisons et ont pour conséquence une accumulation constante des retards qui pénalisent les prisonniers. Par exemple, l'impossibilité de participer à un atelier, sortir en retard alors que, par exemple, débuter une permission de sortie à l'occasion de laquelle il peut y avoir pris un rendez-vous administratif ou professionnel, par exemple pour préparer la sortie, ce dont tu parlais un peu tout à l'heure. Bon, je vais pas faire un état des lieux complet. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, on en a déjà parlé à la précédente émission sur les prisons, l'émission donc du 11 octobre. Du coup, on a un peu plus évoqué toutes les conséquences en fait de ce délire sécuritaire sur les détenus et un petit peu leur réaction par rapport à ça. Mais quand même, pour conclure sur donc, les conditions des prisonniers, c'est intéressant de savoir qu'à ce jour, 37 prisons françaises et en grande majorité des maisons d'arrêt ont été condamnées pour conditions indignes de détention par les cours de justice françaises ou internationales. Voilà.
Ok, alors on peut se demander si ces nouvelles prisons sont vraiment une avancée. On vient de voir que pour les détenus, ce n'était pas le cas. Et qu'est-ce qu'il en est pour les proches des détenus ?
Si on prend l'exemple de Vivonne, effectivement, il n'y a pas la même proximité avec la prison qu'il y avait à l'époque de la prison de la Pierre-Levée. On a délocalisé la prison, comme dans beaucoup de cas, en dehors des villes. Donc la prison se trouve au milieu des champs, à une vingtaine de kilomètres de Poitiers. C'est une belle manière de dissimuler l'enfermement. Et pour les familles, c'est plus d'isolement et plus de difficultés pour s'y déplacer. Donc des détenus pourraient avoir été transférés d'une autre prison. Les familles peuvent avoir à commencer par parcourir 500 kilomètres pour réaliser une visite. Avant de devoir organiser aussi les trajets locaux une fois arrivés sur Poitiers ou sur Angoulême. Il y a une seule navette qui conduit de la gare de Poitiers à la prison de Vivonne. Elle a des horaires limités et stricts. Du coup, si on a le moindre frein le moindre loupé par rapport à ça, on peut se trouver privé de parloir parce qu'on n'est pas arrivé à temps. Si on revient aussi à la situation d'un prisonnier qui sortira en permission sans pouvoir disposer du soutien de ses proches, une sortie annoncée le matin à 9h pourrait donner une sortie réelle à 9h25. Là aussi, la navette est déjà passée, reste encore à marcher ou à faire du stop jusqu'à Poitiers. Par rapport aux familles aussi, ce qu'on peut dire, c'est que précédemment, l'association d'accueil des familles de détenus, qui se veut une aide et un soutien pour ces familles, à l'époque de la pierre levée, disposait d'une maison indépendante pour recevoir les familles. Maintenant, ils se trouvent dans un local au sein du périmètre de l'établissement pénitentiaire. Ça implique la présence de l'agent du GEPSA, donc entreprise gestionnaire dont on vous parlera un peu plus tard. Et ça a bien évidemment un impact sur les activités de l'association, sur sa liberté de parole aussi et d'échange avec les familles.
Merci Cathy, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler prison et gros sous.
Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, nigga, better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, nigga, better over time.